Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bien, mais peut beaucoup mieux faire. Depuis l'adoption de la loi sur la parité homme-femme il y a 10 ans, des progrès ont été faits, mais ils sont encore trop timides au sommet des entreprises. C'est le sens de la proposition de loi que le Sénat examine aujourd'hui. Des femmes, il y en a dans les conseils d'administration, mais trop peu dans les comités exécutifs. C'est pourtant là que se trouve le pouvoir. C'est là que se prennent les décisions. La future loi veut donc y remédier. Explication Virginie Riva.
Avec désormais 45% de femmes dans les conseils d'administration, la France fait partie des premiers pays dans le monde à avoir féminisé ses grandes entreprises cotées. C'est grâce à la loi parité votée il y a 10 ans, mais la loi ne fixait en revanche aucun quota pour les comités de direction ou les comités exécutifs, vraies instances décisionnaires des entreprises. Elles ne sont donc que 27% à y être représentées. La loi Rixin-Castaner propose comme objectif 30% d'ici 2027 et 40% d'ici 2030 pour toutes les entreprises de plus de 1000 salariés, sous peine de sanctions financières. Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité hommes-femmes.
Je n'ai pas peur de dire que cette loi va être historique. Nous espérons qu'avec cette loi de Marie-Pierre Rixin et Christophe Castaner, bien nous arrivions au niveau des comités de direction et des COMEX, parce que c'est là que les décisions se prennent et que ces décisions concernent à la fois les femmes et les hommes de notre pays et qu'il est normal que les femmes aient la possibilité d'apporter leur voix.
Une loi qui s'adresse plus généralement à toutes les femmes. Elle propose que la banque publique BPI France investisse davantage dans les projets de femmes entrepreneurs ou garantissent des places réservées en crèche pour les familles monoparentales. Le gouvernement se veut confiant sur ses chances d'être adopté rapidement.
Virginie Riva du service Société d'Europe.
Le procès des assassins présumés de Mireille Knoll. Les deux co-accusés ont tenté d'amadouer la cour d'assises hier.
Yacine Mioub et Alex Karim Bacus continuent de s'accuser mutuellement du meurtre de l'octogénaire juive. Assis côte à côte dans le box, ils sont apparus comme étrangers l'un à l'autre, s'évitant soigneusement du regard. Les deux co-accusés partagent pourtant un point commun. Hier à l'audience, ils ont tous deux raconté une enfance difficile, faite de coups et d'humiliations. Gladys Laffitte.
Tous deux ont eu une enfance chaotique. Tous deux ont connu la violence des autres et envers les autres. Yacine Mioub, 31 ans, a tenté de minimiser ce trait de sa personnalité, dirigé notamment contre ses sœurs. Des tabassages pas forts, a même détaillé sa mère à la barre, elle aussi accusée au procès. S'il est parfois violent, c'est qu'il en voulait à tout le monde, a-t-il dit, marqué par un viol avéré qu'il a subi à ses 12 ans à l'internat. Il développe alors de gros problèmes d'alcool. J'étais plus au bar qu'à la mosquée. J'ai dû boire plus de 1000 flasques et il n'y a pas eu tant de drames, a-t-il expliqué calmement en regardant la famille de la victime. Mais face à l'avalanche de questions du président, l'accusé a montré des signes de nervosité, utilisé un ton défensif, voire insolent. Alex Karim Bacus, lui, est resté plus calme. Depuis ses 8 ans, il est ballotté de foyer en foyer, a connu de nombreuses hospitalisations en psychiatrie, les violences sexuelles aussi. Bref, un marginal, dira l'un de ses employeurs. La violence en lui, il la reconnaît, la regrette parfois. Tous deux risquent la réclusion criminelle à perpétuité.
Gladys Laffitte.
À droite toute, à 6 mois de la présidentielle, les Français sont de plus en plus ancrés dans le camp conservateur.
C'est ce qui ressort de l'enquête de la Fondation pour l'innovation politique. 37% des électeurs interrogés disent se situer à droite de l'échiquier, soit 4 points de plus qu'en 2017. 20% affirment être à gauche contre 25% il y a 5 ans. Un sondé sur 4 refuse de se situer politiquement.
Et les sondages justement, que valent-ils? La presse doit-elle en publier? Ce sera le thème du Zoom Info à 8h40. Le sondeur Jérôme Saint Marie elle sera avec nous, de même que Vincent Trémollet de Villers du Figaro, qui publie justement cette enquête Fondapol dont vous venez de nous parler, Christophe. Direction Lille maintenant, où la ligne de partage est claire entre une maire qui dit oui à une salle de shoot et un ministre de l'Intérieur qui répond non.
Oui, Martine Aubry ne décolère pas contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur vient de retoquer le projet de salle de shoot défendu par la maire socialiste. Motif, l'endroit déjà miné par le trafic de stupéfiants n'est pas le plus indiqué pour accueillir une salle réservée aux consommateurs de drogue. Reportage Lionel Gougelot.
Martine Aubry pensait avoir trouvé l'emplacement le plus pertinent pour sa salle de shoot, intégrée à un centre d'addictologie du CHU, un endroit clos derrière un haut mur, des nuisances limitées, pas de file d'attente de toxicomanes sur la voie publique, un projet qui avait obtenu le feu vert du ministère de la Santé et même de Jean Castex au printemps dernier. Mais Gérald Darmanin s'était aussitôt opposé à une telle expérimentation dans un quartier sensible, en proie au trafic de drogue justement. C'est donc lui, finalement, qui l'emporte dans l'arbitrage. Décision purement politicienne, dénonce Martine Aubry.
Donc, monsieur Darmanin, sans sans doute en mission pour poursuivre la droite et l'extrême droite pour Monsieur le Président de la République, quand je vois ses propos sur les immigrés, sur les réfugiés, etc. Et là, sur les toxicomanes, qui nous dit qu'il faut les combattre et non pas les accompagner. Moi, je suis pour les combattre. Je lui demande encore plus de policiers. Mais je suis aussi pour accompagner. Quand il y a une salle de consommation, eh bien, il y a moins de seringues par terre. Il y a moins aussi de populations qui peuvent attraper le HIV, l'hépatite A ou des maladies.
Reste qu'à ce stade, ce projet de salle de shoot semble bel et bien enterré, puisque les solutions alternatives proposées par le gouvernement sont situées sur des terrains non constructibles et pollués. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
En pleine crise sanitaire, l'enquête sur l'état de l'hôpital public a de quoi inquiéter.
20% des lits disponibles sur le papier sont en réalité fermés. C'est l'un des enseignements de l'enquête flash commandée par le président du conseil scientifique. Conséquence du manque de médecins, d'infirmières et d'aides-soignants, le ministre de la Santé reconnaît ce matin dans Libération que la situation est compliquée. Mais je n'ai pas de solution miracle, dit-il, d'autant que les démissions et l'absentéisme progressent.
Au Royaume-Uni à présent, la haute cour de justice britannique se penche aujourd'hui sur le cas de Julian Assange.
Le fondateur des Wikileaks est actuellement emprisonné en Grande-Bretagne. On rappelle que Julian Assange est poursuivi pour avoir publié des documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines. Des révélations qui pourraient l'envoyer en prison aux États-Unis pour 175 ans. Et c'est pour cette raison que les Américains réclament son extradition. Mais le journaliste n'y survivrait pas, Anaïs Cordoba.
Amaigri et très mal en point, voilà comment Stella Morris a décrit l'état de Julian Assange, incarcéré depuis avril 2019 dans une prison londonienne. Devant un parterre de journalistes, sa compagne et avocate a aussi évoqué cette enquête, publiée le mois dernier par Yahoo News. Elle démontre que la CIA, sous la direction de Mike Pompeo, a comploté pour kidnapper et assassiner Julian Assange. Des nouvelles révélations qui seront au cœur de la stratégie de défense du lanceur d'alerte.
A game changer going into the appeal.
Ça peut changer la donne dans le cadre de cet appel. Ça démontre la véritable nature, les véritables origines et la criminalité des actions américaines contre Julian. Et ça entache la supposée légalité de cet appel. Est-ce que le Royaume-Uni peut extrader quelqu'un vers le pays qui a tenté de l'assassiner? C'est la question inévitable sur laquelle devra se pencher la Cour.
Le verdict sera prononcé dans un délai de 4 à 6 semaines après l'audience. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
En Italie, de violentes intempéries frappent actuellement la Sicile. La ville de Catane a été ensevelie sous des torrentos. Un homme de 53 ans est mort, selon un premier bilan. Et puis aux États-Unis, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans fait son chemin. Ils sont 28 millions outre-Atlantique. Un comité d'experts se prononce pour le oui. L'Agence américaine des médicaments aura le dernier mot, mais il est rare qu'elle ne suive pas l'avis du comité. Enfin, les fans du film Dune, Dimitri, sont d'ores et déjà prêts à retenir leur place. Le film aux 220 millions de dollars de recettes et près de 3 millions d'entrées en France va connaître un deuxième épisode. Il y aura une suite, c'est ce qu'annonce la société de production. Et vous savez comment elle va s'appeler cette suite?
Dune 2.
Bah oui, bien sûr.
Tout simplement.
Bravo.
Bon, il y a de quoi faire avec Dune. Il y a, allez, ouais, de mémoire, 7 ou 8 tomes pour la version, enfin, ce qui a été écrit par Frank Herbert. Et son fils a repris la licence, entre guillemets, avec l'avant-dune, l'après-dune, etc. Il y a de quoi faire une trentaine de films allègrement. Merci Christophe Lamarre. Vous venez tout à l'heure 8h30 dans un instant.